déconfiné, poème en liberté. Un avant-goût de l'exposition de cet été au monastère de Brou. Une émission composée par Christine Fusarelli. Chers auditeurs de Radio B, je vous salue et je suis heureuse de vous proposer une émission spéciale en dehors de mon créneau habituel avec « Ça manque pas de poésie ». C'est la surprise de l'été, surprise qui vous sera, je l'espère, agréable et qui ressemble un peu à ce que je vous propose habituellement puisqu'il sera question de poésie et de musique, mais avec un plus puisqu'une troisième forme artistique viendra s'ajouter aux deux premières, les arts plastiques. En effet, je suis aujourd'hui en compagnie de Magali Bria-Philippe, conservatrice du musée de Brou, que je salue et remercie d'avoir accepté cet entretien. Bonjour Magali.
Bonjour, merci à vous pour votre invitation.
Alors, pour commencer, Magali, pouvez-vous nous présenter dans ses grandes lignes l'exposition qui va se tenir au musée du monastère de Brou cet été, du 11 juillet, je crois, au 20 septembre?
Oui, tout à fait, elle va se tenir donc cet été, en remplacement d'une exposition initialement prévue à partir du 16 mai, qui était consacrée à Valadon et ses contemporaines, et qui est reportée au printemps de l'année prochaine. Donc cette exposition, œuvre déconfinée, poème en liberté, nous avons dû la monter en un temps record, de façon à proposer à notre public estival une programmation de qualité, et elle nous permet de mettre en valeur nos propres collections, des œuvres sorties des réserves, dans un esprit de résilience. C'est parce qu'il nous semblait qu'il n'était pas vraiment possible de pouvoir rouvrir comme si de rien n'était, que nous avons imaginé de faire résonner à la fois des œuvres et des poèmes sur le fil d'un récit que nous avons construit avec voix mêlée, à partir de cette étrange expérience du printemps 2020.
D'accord, donc ça veut dire en fait que le public va être concerné, je dirais à double titre, à la fois par les œuvres et par le récit qui accompagne ces œuvres.
Absolument, alors c'est une relecture que nous faisons de ces œuvres qui ont été créées tout au long du XXe siècle et jusqu'à nos jours et qui ne sont pas créées spécialement en lien avec la pandémie mais qui dans cette relecture-là font sens. Beaucoup d'entre elles sont abstraites, donc on peut projeter aussi sur elles des histoires, des impressions, des sentiments. Et donc il y a trois moments forts autour desquels elles s'agencent.
Donc ça c'était le projet initial, et comment s'est construit l'idée justement de ce récit qui est en lien avec les œuvres?
Alors en fait, au tout départ, l'idée m'est venue en écoutant une émission de radio justement sur le pouvoir cathartique de la poésie. Je me suis dit que ce serait une expérience aussi inédite que de faire dialoguer comme ça des formes, des couleurs, des œuvres dont l'abstraction peut les rendre parfois un petit peu hermétiques, avec des mots qui leur donneraient sens. Donc c'est d'abord en présélectionnant les œuvres qui paraissaient les plus justes, en les associant ensuite avec des poèmes, et le tout dans une mise en espace, parce qu'il y a aussi l'accrochage en fait, qui plastiquement, visuellement, va faire qu'une œuvre va fonctionner avec telle autre. Ça s'est construit petit à petit. Encore une fois avec ce regard extérieur aussi très enrichissant du collectif Voix Mêlée.
Oui, je peux dire au passage que faisant partie de ce collectif, j'ai trouvé aussi ces rencontres très enrichissantes puisqu'en fait on a chacune de notre côté, d'abord puisqu'on était quatre, on a cherché des poèmes, on s'est réunis une première fois entre nous pour faire un premier choix et puis ensuite on a rencontré Magali Bria-Philippe à deux reprises pour confronter nos choix, et je dois dire que c'était vraiment des moments très forts, hein, de vrai travail, hein, ça a duré quand même un certain temps, et puis qui ont abouti, je crois, à une belle mise en perspective des œuvres avec les textes.
C'était vraiment une rencontre enrichissante, sachant qu'on souhaitait puiser dans un répertoire très vaste, à la fois chronologiquement, mais aussi dans les styles, que ce soit des auteurs très connus, très renommés, comme Verlaine, Lamartine, Lautréamont,
ouais.
Ou bien des auteurs plus contemporains et moins renommés.
Moins connus, oui, oui.
Peut-être dire aussi que pour nous, ça a été l'occasion de faire un travail sur les collections permanentes, qui est évidemment aussi très gratifiant de pouvoir sortir des choses qui sont très rarement montrées, des réserves, notamment de grands formats. On a des grands formats de Joël Mitchell, d'Olivier Debré, de Judith Regel, donc de très grands artistes, mais qui, pour des questions d'espace, ne peuvent pas être présentés de façon permanente. Et puis des acquisitions récentes, et notamment des donations. Donc ça nous fait extrêmement plaisir de pouvoir faire découvrir ces œuvres au public.
Bien sûr, ouais, plutôt que de rester enfermé. Bien. Alors, pour vous donner, chers auditeurs, un avant-goût de cette exposition, je vous propose de continuer à entendre les commentaires éclairés de Magali Bria-Philippe sur ces œuvres déconfinées que vous pourrez voir au musée, et d'entendre aussi, dans leur intégralité, bon nombre de poèmes qui accompagnent ces œuvres, ainsi que plusieurs autres textes qui, bien que non retenus dans la sélection finale, sont aussi en correspondance avec les tableaux et les trois étapes du récit dont on va vous expliquer un petit peu maintenant le déroulement. Quant aux musiques qui vont ponctuer les textes et parfois les accompagner, j'ai pensé qu'en regard d'une peinture contemporaine, il serait juste de faire entendre des œuvres de musique contemporaine. Et parmi elles, j'ai découvert récemment un album créé en hommage à Paul Zahrer. Paul Zahrer, c'est un industriel suisse qui était aussi chef d'orchestre, qui est né en 1906, mort en 1999. Et il a surtout été un important mécène pour la musique contemporaine. Il a commandité de très nombreuses œuvres de musique contemporaine auprès de compositeurs du XXe siècle. Et c'est pour lui rendre hommage qu'en 1976, le violoncelliste Mstislav Rostropovitch a commandé à 12 compositeurs différents une œuvre ayant pour thème le nom de Zahrer, c'est-à-dire à partir des lettres S-A-C-H-E-R, et dans notre notation musicale à nous, c'est mi bémol, la, do, si, mi, ré. Et le point commun de ces 12 pièces, c'est qu'elles sont écrites pour violoncelle, et c'était une raison supplémentaire pour moi de choisir ces extraits, pour accompagner les mots des poèmes, car on sait bien que le violoncelle est l'instrument qui est le plus proche de la voix humaine. Commençons par un poème de Robert Desnos, qui date de 1944, à un moment de notre histoire de France où s'affirme de plus en plus le mouvement de résistance face à l'occupant allemand, mouvement auquel participa Robert Desnos, qui, rappelons-le, sera déporté et mourra au camp de Térésine le 8 juin 1945. D'ailleurs, je crois que dans la première partie de l'exposition, il y a aussi un rapport entre les peintres et des expériences telles que celles qu'a vécues Robert Desnos.
Alors, dans cette première partie figurent aussi plusieurs artistes marqués par les camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale, que ce soit Armando, qui a grandi à côté du camp de Amersfoort, ou Zoran Musić, rescapé de Dachau, qui, dans l'œuvre présentée de l'exposition, s'essaye à l'abstraction. Il s'agit de représentations karstiques de paysages désertiques de son enfance en Dalmatie, mais qui prennent aussi un peu l'apparence, dans ce récit que nous proposons au sein de l'exposition, de bactéries qui semblent proliférer et se propager de façon inquiétante.
Le poème que vous allez entendre s'appelle « La voix ». C'est une lueur d'espoir dans la tourmente des années 40 et il nous a paru que les mots du passé pouvaient aussi s'appliquer à notre situation actuelle et nos perspectives d'avenir. Vous entendrez ensuite une pièce du compositeur anglais Benjamin Britten intitulée « Thema Zahrer ». Une voix qui vient de si loin qu'elle ne fait plus tinter les oreilles. Une voix comme un tambour voilé parvient pourtant distinctement jusqu'à nous. Bien qu'elle semble sortir d'un tombeau, elle ne parle que d'été et de printemps. Elle emplit le corps de joie, elle allume aux lèvres le sourire. Je l'écoute. Ce n'est qu'une voix humaine qui traverse les fracas de la vie et les batailles, l'écroulement du tonnerre et le murmure des bavardages. Et vous, Ne l'entendez-vous pas ? Elle dit, la peine sera de peu de durée. Elle dit, la belle saison est proche. Ne l'entendez-vous pas ? Parliez de l'aspect cathartique de cette exposition, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Il me semble qu'effectivement, lorsqu'on sort d'une épreuve comme celle que nous avons traversée, qui nous a pas mal secoué, l'art peut avoir un rôle à jouer pour nous aider à prendre du recul sur notre vie, sur la façon dont on voit le monde.
Oui, il y a d'autant plus qu'on a été privé d'art quand même pendant...
Voilà, donc c'est aussi une façon de retrouver le chemin du musée et de la contemplation de ses œuvres, de pouvoir s'arrêter et de réfléchir et de regarder autrement à travers à la fois les mots et les peintures, mais aussi des sculptures. On a des 43 œuvres en tout, de supports, de matériaux très, très différents.
Et ce qu'il faut ajouter peut-être, c'est qu'à chaque œuvre correspond un texte ou un extrait de texte.
Tout à fait.
Donc par rapport au récit dont vous nous parliez tout à l'heure, c'est un récit qui se décline, vous disiez, en trois étapes. Alors quelles sont ces trois étapes ?
Donc l'exposition est effectivement structurée en trois temps forts qui sont précédés par un préambule annonciateur dans la salle capitulaire. La première partie s'intitule « Choc et sidération ». La deuxième, entre lutte et incertitude. Et la dernière, c'est celle de la liberté et du lien social à reconquérir.
Et donc ce préambule, en quoi consiste-t-il ?
Alors ce préambule, donc, il est situé dans la salle capitulaire et il présente à la fois une annonciation très épurée de Gustave Miklos, mais qui perd sa caractéristique religieuse pour devenir plutôt celle d'une préfiguration de l'avenir, et qui est associée à un souvenir d'enfance, un paysage presque effacé, un peu pris dans un brouillard indéfinissable d'un artiste grec, Mario Prasinos, qui a dû fuir la Turquie, enfant, pour s'installer en France. Et puis ensuite, donc, on arrive dans le passage du verger, dans un petit espace assez intime avec des visages de poussière de Lionel Sabaté, qui est un artiste qui a reçu de nombreux prix maintenant, qui est un artiste émergent qu'on avait déjà exposé à Brou il y a quelques années et qui a collecté de la poussière du monastère pour en faire 7 visages pour 7 jours de la semaine. Qui sont des visages indéfinissables, insaisissables, d'une très grande délicatesse. Et ce faisant, il transforme finalement des matériaux un peu rebutants, des matériaux organiques qui sont voués à disparaître. Et il leur donne une forme humaine, une forme de beauté. Une beauté aussi universelle, parce que quelque part, ces traces que nous laissons de nous, ce sont autant de vestiges d'ADN qui sont réunis en un seul visage. Et puis tout au fond, il y a un contrepoint très fort, très coloré, d'une expérience d'apesanteur de Judith Regel, qui est une artiste qui a fui la Hongrie dans des conditions terribles et qui a créé cette série qui joue sur des notions de négatif, avec des carrés de couleurs qui semblent percer en fait des fonds noirs à un moment difficile de son existence. Donc on a à la fois cette vie délicate dans les visages de Lionel Sabaté et puis cette présence d'un rouge presque hypnotisant.
Oui, ça fait presque une opposition entre le léger et le dense.
Voilà.
Et le texte Primo Levi, justement, qu'on a fait correspondre à ces tableaux, je trouve qu'on vient parfaitement, puisqu'il est question de poussière aussi dans le texte de Primo Levi. Et des deux aspects de la poussière, l'aspect négatif et l'aspect positif comme germe pour aller vers autre chose, ce qui est un peu la thématique de l'exposition.
Oui, c'est aussi une référence à l'Ecclésiaste. Mmh. Voilà, nous sommes faits de poussière et nous redeviendrons poussière. Et finalement, il y a une sorte de cycle aussi de la matière qui se régénère.
Combien de poussière se dépose sur le tissu nerveux d'une vie. La poussière est sans poids, elle n'a pas de son, pas de couleur, ni but. Elle voile, elle nie, elle oblitère, elle dissimule, elle paralyse. Elle ne tue pas, elle éteint. Elle n'est pas morte, elle dort. Elle nourrit des spores millénaires, saturées de mots à venir, minuscules chrysalides en attente de trancher et décomposer, de dégrader. Pur guet-apens, confus, indéfini, prêt pour l'assaut futur, à l'appel d'un signal muet. Mais elle couve aussi des germes différents, semences assoupies qui deviendront idées, grosses chacune d'un univers neuf, imprévu, étrange et beau. Aussi, respecte et craint ce manteau gris privé de forme. Il renferme le mal et le bien, le danger et quantité de choses écrites. Primo Levi. Alors dans cette première partie, c'est un petit peu comme vous le disiez pour les poèmes, c'est-à-dire qu'il y a des peintres très célèbres et puis d'autres un petit peu moins. Donc par exemple Pierre Soulages.
Oui, alors avec Pierre Soulages, c'est le surgissement du noir, puisque c'est bien sûr le maître de l'outre-noir. L'œuvre que nous présentons date de 1964, donc c'est une œuvre assez précoce, à un moment de sa carrière, donc où le geste reste encore primordial, le noir n'a pas encore recouvert toute la surface. Et il y a aussi donc une forme de lumière qui surgit à travers cette gestuelle, un peu à la façon des vitraux qu'il a pu faire à Conques. Et on met en dialogue cette œuvre de Soulages, à la fois avec un texte de Carnorac écrit sur l'artiste, mais aussi avec des œuvres de Jean de Gotex, qui est un artiste dont on a un fonds très important à Brou, qui a été découvert par André Breton, qui lui a fait découvrir le bouddhisme zen et qui a beaucoup travaillé donc, sur la calligraphie japonaise et qui petit à petit a épuré de plus en plus sa démarche artistique pour travailler sur la ligne. Donc il y a un monochrome noir qu'il a travaillé avec des sillons, ce qui donne un effet tactile extrêmement intéressant. Ou encore l'œuvre de Armando, Champ de bataille, qui est comme un nuage de cendres que l'on a mis en dialogue avec un poème d'Apollinaire composé pendant la Première Guerre mondiale.
Tristesse. Si je pouvais trouver un éternel sourire, voile innocent d'un cœur qui s'ouvre et se déchire, je l'étendrai toujours sur mes pleurs mal cachés et qui tombent souvent par leur poids épanché. Renfermé à jamais dans mon âme abattue, je dirais « ce n'est rien à tout ce qui me tue ». Et mon front orageux, sans nuages et sans plis, du calme enfant qui dort peindrait l'heureux oubli. Dieu n'a pas fait pour nous ce mensonge adorable. Le sourire défaille à la plaie incurable, cette grâce mêlée à la coupe de fiel, Dieu mourant l'épuisa pour l'emporter au ciel. Adieu sourire. Adieu jusque dans l'autre vie, si l'âme du passé n'y peut être suivie. Mais si de la mémoire on ne doit pas guérir, à quoi sert, ô mon âme, à quoi sert de mourir ? Marceline Desbordes de Valmore. Je me souviens souvent de Cocteau qui disait « Le poète essaie de mettre sa nuit sur la table. » Il ne cherchait pas l'endroit le plus stable. Toute poésie naît d'un basculement. Il y a toujours un courage à entrer dans sa nuit sans seulement en collectionner les ombres ni les preuves. Pas pour épandre une encre qui dit la vérité, mais pour mentir à la mort et à la vie ensemble. Pour savourer ce faux pas qui devient une danse, ce chant qui fait fleurir la gorge de n'avoir rien dit. Cette nuit qu'un poète avait posée ou laissée à sa chute, un autre artiste la ramassa pour la peindre. On lui somma de dire pourquoi il choisissait ce noir. Le noir est ce qui point quand la couleur se réinvente, pensa-t-il sans doute. Mais il préféra se taire, comme pour signifier que désormais, il ne répondrait plus qu'à une aube. Devant un tableau de Soulage, Karl Norack. Il y a un vaisseau qui a emporté ma bien-aimée. Il y a dans le ciel six saucisses et la nuit venue, on dirait des asticots dont naîtraient les étoiles. Il y a un sous-marin ennemi qui en voulait à mon amour. Il y a mille petits sapins brisés par les éclats d'obus autour de moi. Il y a un fantassin qui passe, aveuglé par les gaz asphyxiants. Il y a que nous avons tout haché dans les boyaux de Nietzsche, de Goethe et de Cologne. Il y a que je languis après une lettre qui tarde. Il y a dans mon porte-carte plusieurs photos de mon amour. Il y a les prisonniers qui passent, la mine inquiète. Il y a une batterie dont les servants s'agitent autour des pièces. Il y a le vague-mestre qui arrive au trot par le chemin de l'arbre isolé. Il y a, dit-on, un espion qui rôde par ici, invisible comme l'horizon, dont il s'est indignement revêtu et avec quoi il se confond. Il y a, dressé comme un lys, le buste de mon amour. Il y a un capitaine qui attend avec anxiété les communications de la TSF sur l'Atlantique. Il y a, à minuit, des soldats qui scient des planches pour les cercueils. Il y a des femmes qui demandent du maïs à grands cris devant un Christ sanglant à Mexico. Il y a le Gulf Stream qui est si tiède et si bienfaisant. Il y a un cimetière plein de croix à 5 km. Il y a des croix partout, de ci, de là. Il y a des figues de Barbarie sur ces cactus en Algérie. Il y a les longues mains souples de mon amour. Il y a un encrier que j'avais fait dans une fusée de 15 cm et qu'on n'a pas laissé partir. Il y a ma selle exposée à la pluie. Il y a les fleuves qui ne remontent pas leur cours. Il y a l'amour qui m'entraîne avec douceur. Il y avait un prisonnier boche qui portait sa mitrailleuse sur son dos. Il y a des hommes dans le monde qui n'ont jamais été à la guerre. Il y a des hindous qui regardent avec étonnement les campagnes occidentales. Ils pensent avec mélancolie à ceux dont ils se demandent s'ils les reverront. Car on a poussé très loin durant cette guerre l'art de l'invisibilité. Guillaume Apollinaire, sur une composition de Pierre Boulez ayant pour titre Message esquisse. Il me trace sur le corps des signes sombres, des dessins de vie ancienne, des écritures tronquées, des empreintes gourmandes, avides et déroutantes, des ratures silencieuses. Elles s'enfoncent, creusent, s'imprègnent davantage, percent, s'oublient à l'intérieur du corps. Elles sont comme tracées au ciseau, aléatoires mais nécessaires. Elles créent des béances, des trouées, des accidents dans la courbure des formes, dans le lent déroulement des chairs, des abîmes d'ennui dans la transparence des corps nus. Un oiseau mort s'y tient blotti. Anne Loreau. Tu guettes une trouée dans l'espace pour réclamer ce que tu es seul à voir alors que tes mains sont caduques et que la planète a changé d'orientation. Impossible de saisir le miroitement de l'eau, le grésillement d'un cierge, le vacillement de la pluie sur une terre inclinée, et comment évaluer l'angoisse des gouttes d'un robinet qui fuit? Faut-il t'avouer notre impuissance à être utile? Nommer ce qui ne se prononce pas, faute de conciliabule entre les mots? Vénus Kurigata. Molle et sans voix, le couperet de l'ombre descend du ciel et le jour tombe, la face contre terre dans le fatal étang, et les yeux s'enfoncent dans la fosse. Long crépuscule, je demeure, je médite et je vois. Les ténèbres envahissent ma cellule par la fenêtre ouverte. Le vitrail du monde se décolore comme un visage qui se vide de sang. Et quand tout est noirceur, la profonde clarté s'est faite dans mon âme. Comme le requin avale le nageur dans les eaux rouges de la barre à la côte d'Afrique, le parfait désespoir me happe. Et pas même un remous. André Suarez. Pas un mot ne perce l'obscurcissement. Pas un dieu ne lève la main. Où que par ailleurs je regarde, la terre qui s'amoncelle. Nulle forme qui se détache, nulle ombre en suspens. Et sans cesse j'entends: trop tard, trop tard. Hannah Arendt sur une composition de Conrad Beck. Alors, la seconde étape du récit a été intitulée Entre lutte et incertitude et correspond un petit peu à l'époque qu'on a vécue récemment du confinement dû à la crise sanitaire. Donc comment les peintures et les sculptures représentent-elles cette étape?
Alors il y a tout d'abord cet équilibre précaire et qui se solde par une chute mortelle, celle d'Icare, le fils de l'architecte Dédale, qui pour s'évader du labyrinthe s'approche un peu trop du soleil avec ses ailes, qu'il brûle et qu'il tombe. Mais bon, on peut évidemment y voir la métaphore de l'être humain un peu trop orgueilleux que la nature rappelle à sa vulnérabilité.
un petit peu comme nous récemment. Hein.
Voilà, et puis ensuite, on a une section qui est effectivement écartelée entre deux tendances. L'une qui est celle d'un recueillement intérieur, d'une retraite paisible, loin du bruit et de la fureur. Et puis de l'autre, des œuvres plutôt violentes, voilà, des œuvres qui vont évoquer la situation de celles et ceux qui se trouvaient au front de ce combat contre l'épidémie.
Donc en fait, deux façons de représenter cette crise sanitaire, selon qu'elle a été vécue plus ou moins sereinement, mais quand même dans l'incertitude, puisque c'est quand même pas très confortable pour tout le monde, et puis dans la lutte pour ceux qui effectivement ont continué à travailler et ont continué à prendre des risques.
Oui, et puis des œuvres aussi autour de la notion de passage. C'est le cas de celle de Judith Regel, Entrée-sortie, où on voit une grande porte obscure, assez énigmatique, on ne sait pas trop vers quoi nous mène cette porte, et que nous avons associé à un très beau poème de Charles Julliez, attendre et se diriger vers un passage, aller plus avant, même si on ne sait pas exactement ce qui nous attend. Et ça a d'autant plus de force lorsqu'on sait que Judith Regel, qui est native de Kapuvar en Hongrie, qui est une ville dont le nom signifie portail, je crois, eh bien, il a fallu qu'elle s'y reprenne à 10 fois pour fuir la Hongrie dans les années 50. Elle a traversé pratiquement toute l'Europe à pied pour pouvoir arriver jusqu'à Paris. Donc évidemment, une œuvre comme celle-ci aussi, ça nous permet de remettre en perspective bien des situations.
Et maintenant, une seconde série de poèmes qui vont s'enchaîner après cette pièce de Klaus Huber. Attendre, demeurer inerte, laisser s'approfondir le silence. Mais la faim ronge, s'exacerbe, voudrait me contraindre à forcer le seuil. Surtout, ne rien tenter, ne rien forcer, et d'un mouvement feutré, suspendre l'affût. Endurer la brûlure. Attendre, encore attendre, aller plus avant dans la nudité qui ouvrira le passage. Charles Julliez. Il ne suffit pas d'ouvrir la fenêtre pour voir les champs et la rivière. Il n'est pas suffisant de ne pas être aveugle pour voir les arbres et les fleurs. Il ne faut avoir aucune philosophie. Avec la philosophie, il n'y a pas d'arbres, il y a seulement des idées. Il n'y a que chacun de nous, pareil à une cave. Il n'y a qu'une fenêtre fermée et le monde entier au dehors. Et un rêve de ce qui pourrait être vu si la fenêtre s'ouvrait et qui n'est jamais ce qui est vu lorsque la fenêtre s'ouvre. Fernando Pessoa. Nous ne sommes pas solidement amarrés à ce monde. Il y a toujours quelque chose en nous qui tremble un peu et nous fragilise. Et nous rêvons aussitôt de retomber sur nos pieds, sur une terre qui nous recevrait comme un sein où nous pourrions nous nicher. Et à peine nous y sommes, que revient nous secouer notre désir d'envol et d'aventure. Autour de nous, bêtes et plantes se demandent quels intrus décidément nous sommes. Gabriel Le Gall. Quelque chose se passe, et du moment que cela a commencé, rien ne sera plus jamais pareil. Quelque chose se passe où rien ne se passe. Un corps entre en mouvement ou reste immobile. S'il se meut, quelque chose commence. S'il reste immobile, quelque chose commence aussi. Quelque chose commence et déjà, ce n'est plus le commencement, mais autre chose qui nous conduit jusqu'au cœur de l'action. Si nous nous arrêtions pour nous demander où allons-nous, où sommes-nous, nous serions perdus car à chaque instant, nous ne sommes plus où nous étions. Nous avons laissé en arrière, irrévocablement, ce que nous fûmes, dans un passé sans mémoire, un passé qu'efface le cours inlassable qui nous emporte dans le présent. Paul Auster. Cailloux des souvenirs, vous faites trop de bruit en vous entrechoquant. J'en ai la tête lourde, le cœur fou, l'âme folle, et quand tombe la nuit et que je vous entends, je voudrais être sourde. Le silence viendrait. Les fleurs me parleraient de leur vie incessante et de leur pharmacie. Mon savoir serait autre, avec d'autres secrets que celui qui m'éveille et dont je me soucie. Je passerai mon temps à ne pas me revoir et je m'écarterai des eaux de mon miroir où l'oiseau voyageur s'éprenait des colombes. Sourde et seule avec moi dans mon lit de pâleur, ne me parviendrait plus le chant des crèves-cœurs ni le bruit des cailloux qui construisent ma tombe. Louise de Villemorin. Et pour terminer cette seconde partie, les deux poèmes que vous allez entendre sont accompagnés par une composition de Heinz Holliger qui s'appelle Chaconne pour violoncelle solo. La tentation du désespoir est là. Et l'âme semble abandonnée dans la forêt obscure, dans les cercles de l'enfer. Qui la sauvera du désespoir? La beauté, comme une trêve. D'elle souffle un vent de fronde, de liberté qui interdit de plier l'échine, de se résigner. ne saurait être question de fuir le monde, de s'en absenter, de fermer les yeux sur le mal, mais s'étonner toujours à nouveau de l'inexplicable splendeur de la création, n'est-ce pas venir en amoureuse, au jour qui se lève, soulever d'une main le rideau sombre, voir l'or rouge du soleil monter sur le ciel, laisser tomber le rideau lourd de sang, et garder, cependant, l'œil fixé sur l'avenir. Laurence Verret. Tu apprends à voir l'invisible, à entendre l'inaudible. À caresser le secret, le doux secret simplement, la vie, la rotation de la planète, l'ellipse du temps, le jeu musical des sphères, la trajectoire des martinets, l'horloge végétale et celle de tes poumons. Avec la terre, tu respires une à la fois les mille joies présentes. Un léger sourire. Patrick Jokel. Entre les ronces, je fabrique un passage. Si tu veux me rejoindre, passe par les chevaux. Les peupliers aussi sont des gardiens d'enfants blottis. Je m'appuie sur des mots, sur des tumultes. Marcherons-nous jusqu'au bout, saisons traversées, avec nos jambes, nos bras, nos sacs, nos morts? Irons-nous jusqu'aux ours blancs sur leur toute petite banquise avant de devenir des nuages? Alban Gelé. Qui est intitulée, je crois, « Retrouver la liberté », va avoir certainement une tonalité un peu plus positive, dirons-nous, aussi bien avec les textes qu'avec les œuvres.
La troisième partie s'intitule « Retrouver la liberté », un verbe d'action pour montrer que nous sommes les acteurs de cette reconquête du lien social et de la liberté. Et dans cette partie, les œuvres vont être très colorées, pleines d'énergie. C'est une sorte de jaillissement vital, que ce soit des œuvres rouges, comme le sang chaud de la vie avec le rouge vertical d'Olivier Debré, que nous avons fait dialoguer avec la balade de la vie en rouge de Verlaine, que ce soit O Gioia, O Ineffabile, Allegrezza de Judith Regel, ou le printemps multicolore de Joël Mitchell. Voilà, ce sont des œuvres qui témoignent d'une sorte d'énergie et d'élan vital, de renaissance irrépressible. Et puis des œuvres aussi plus sur le lien affectif, sur les retrouvailles amoureuses, sur des visages humains qui se recomposent à travers des raies de lumière, par exemple.
Et il y a deux sculptures, hein, je crois, dans cette troisième partie.
Oui, alors il y a quelques sculptures. En fait, on a des œuvres tridimensionnelles tout au long du parcours de visite. Et Gustave Miklos est en particulier très bien représenté. Mais nous avons aussi sorti des œuvres de réserve pour compléter les collections permanentes. Donc les visiteurs pourront poursuivre leur visite aussi à l'étage du musée et découvrir des œuvres de Costa Koulentianos, qui faisait partie du legs de Roger et Elisabeth Vaillant.
Troisième et dernière série de poèmes qui va être introduite par une composition de Hans Werner Henze intitulée Capriccio pour violoncelle solo. Le printemps est loin, si loin. Les champs sont roses sombres. Dans le fil d'une pensée morbide, fluide, le vieil homme crache, crapote. Comme un cochon, il se fera abattre. Le lampadaire tremble dans la nuit effervescente. Les gens crient que c'est la fin du monde. Puis rient, car tout n'est pas encore fini. Les fleurs et les odeurs reviendront, c'est sûr. Et on y sera ou pas. Jules de Lavigne. La lumière nous rejoint d'un bond. Le vent revient avec ses parfums de santal, le doux ramage des palmiers, l'éclat sans faille du soleil. Son or ne se moudra pas sans nous. Demain, on se remettrait en route. À nous, le risque et l'épreuve, les lits incertains, les tentes légères. Nous trouverons les mots, la page est immense, les pierres du chemin préparent le ciel. Florence Saint-Roch. Voyageur, le chemin, c'est les traces de tes pas, c'est tout. Voyageur, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. Et quand tu regardes en arrière, tu vois le sentier que jamais tu ne dois à nouveau fouler. Voyageur, il n'y a pas de chemin, rien que des sillages sur la mer. Tout passe et tout demeure. Mais notre affaire est de passer en traçant des chemins sur la mer. Antonio Machado. Ma fille, la mer. Ma fille, la mer, tu l'as deviné, n'est pas un cadeau que l'on peut te faire. Ma fille, la vague est un autre monde où le pied s'enfonce et pas de réponse. L'horizon, ma fille, est un grand seigneur qui te recevra quand tu l'ouvriras. Ma fille, la ronce, tu l'as vu déjà, ne fait amitié qui ne soit de hargne. Ma fille, la danse, que puis-je t'apprendre? Elle est dans tes yeux et tu la suivras. Et l'espoir, ma fille, plus fort que la mer, plus fort que la ronce, la vague et la danse. Guy Bic. Un jour, tu es entré dans le bleu, comme on pénètre dans la vraie vie. Tu es entré dans le bleu, tu as fait le pari de l'immensité, et ce fut comme un sésame, un passage sur l'autre versant du miroir, ce ciel qui emplissait tout, la respiration des galaxies, la cadence des univers, le souffle magnétique de la grande ours. Un jour, tu es entré dans le bleu, pour n'en plus jamais revenir. Ce bleu ardent, électrique, invulnérable, tu t'es plongé dans un bain d'indigo au centre de l'horizon pour voir tout en bleu, ligne de ciel, ligne de cœur, pour te faire la belle bleue avec les pinceaux vivants, l'intensité. L'intensité pour devenir bleu d'émotion, découvrir ce lâcher de ballon bleu au fond du cœur, ce saut dans la poésie où la création recommence à chaque instant, où l'éternité a la grâce des funambules, une énergie capable de forcer la pesanteur, une vie vouée au judo du bleu, une fête de l'infini pour les marcheurs d'aurore. Zeno Biani. Il faut que les beaux jours reviennent. Le pavé est trop las, les lumières sont pâles. Il nous faut un quartier de soleil pour la route. Un brin dans l'œil, des éclats dans le corps. Les beaux jours reviennent, regarde, à peine adolescentes, les filles écartent la nuit dans leur danse. Les garçons sautent les enclos pour embrasser l'étoile. Ils apprennent à lire ensemble, mettent le feu au bois des langues, reforment les bûches pour faire parler les mots, barbouillent sur l'écran d'éblouissants clichés pour que surgisse sous le phare l'insolite et le quotidien. Regarde comme je t'aime, et souffle sur les braises. Les beaux jours reviennent, le désir tonne dans le ventre des luttes. Jean-Jacques Koltis. Parce que le ciel souffle sur le feuillage de nos silences et que battent les saisons, parce que la rosée bientôt nous rendra au petit matin et que les heures glissent entre nos mains des orages et des falaises, parce que tant de beauté continue de vivre, et que nous sommes aussi tant de beauté. Chaque jour, on traverse jusqu'à l'instant sublime où la terre, lentement, la terre, son doux visage déveillé, remonte de la nuit. Remonte de la nuit. Hélène Dorion. Le poète, il a beau plonger sa main dans les ténèbres, sa main ne noircit jamais. Sa main est imperméable à la nuit. Quand il s'en ira, car tous en vont un jour, j'imagine qu'il restera un très doux sourire en ce bas monde. Un sourire qui n'arrêtera pas de dire oui et encore oui à tous les espoirs séculaires et démentis. Yanis Ritsos. Saison des hommes. Sachant qu'elle nous sera ôtée, je m'émerveille de croire en notre saison et que nos cœurs chaque fois refusent l'ultime naufrage. Que demain puisse compter quand tout est abandon. Que nous soyons ensemble, égarés et lucides, ardents et quotidiens, et que l'amour demeure après le discrédit. Je m'émerveille du rêve qui sonde l'avenir, des soifs que rien ne désaltère, que nous soyons chasseurs et gibiers à la fois, gladiateurs d'infini et captifs d'un mirage. Les dés étant formels et la mort souveraine, je m'émerveille de croire en notre saison. André Chédid. Les deux pièces que vous venez d'entendre ont été composées respectivement par Alberto Ginastera et Henri Dutilleux. Une des particularités de cette exposition, c'est aussi l'interaction avec le public, je crois.
Oui, alors ça nous paraissait très important que le public puisse aussi partager ses propres émotions, ses propres impressions, et donc écrire lui aussi des poèmes sur une page Facebook dédiée. Et puis, parce que la poésie, c'est aussi la musique des mots, les visiteurs pourront écouter des chroniques enregistrées par RCF, 10 chroniques sur 10 œuvres choisies. Et donc cette interactivité nous paraît aussi très importante dans la mesure où malheureusement, à cause des conditions sanitaires actuelles, nous ne pouvons pas proposer d'ateliers de visites guidées, donc il fallait inventer d'autres modes de partage.
Voilà, donc en fait, cette crise sanitaire permet aussi d'inventer autre chose. Ça peut avoir des aspects positifs quand même. Pour terminer, est-ce qu'on peut rappeler à la fois les dates, les horaires et les conditions d'accès à cette exposition ?
Alors, le monastère royal de Brou est ouvert tous les jours, 7 jours sur 7, de 9h à 18h, avec une fermeture entre 12h30 et 14h. Pensez à la billetterie en ligne en réservant sur le site monastère-2-brou.fr.
D'accord. Les horaires, vous les avez donnés. Les dates, on a dit oui, du 11 juillet au 20 septembre. Donc voilà, j'espère que cette émission vous aura donné un petit peu un avant-goût de l'exposition, vous aura donné envie d'y venir, parce qu'en parler c'est bien beau, mais l'essentiel c'est quand même de voir les œuvres et de découvrir les textes aussi. Donc soyez nombreux à venir cet été au monastère de Brou. Pour terminer, sachez que cette émission est disponible en réécoute sur le site de Radio B, www.radio-b.fr, et que sur ce même site, vous pourrez retrouver également les références des poèmes et celles des musiques. Œuvre déconfinée, poèmes en liberté. Un avant-goût de l'exposition de cet été au monastère de Brou. Une émission composée par Christine Fusarelli.